Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'RDC est malheureusement classée sur la liste des pays passoires des fonds illicites, d'où la réticence de certaines entreprises de transfert des fonds et de certaines banques. C'est la réponse du président Tshisekedi aux Congolais vivant en Chine. Ces derniers disent éprouver des difficultés de retirer de l'argent au guichet des agences de transfert des fonds et même d'ouvrir un compte bancaire en Chine. À Kinshasa, les activités ont été paralysées et la circulation perturbée hier avant midi autour du siège de la CENI. C'est à la suite d'un sit-in de l'opposition prévu sur place. Sit-in pour dénoncer ce que l'opposition, dont Martin Fayulu, qualifie de hold-up électoral en gestation, vu le caractère non fiable du fichier électoral d'après lui. Sachez tout d'abord que le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé hier certaines personnalités à la tête des différentes institutions. Les ordonnances ont été lues à la RTNC. Il a ainsi nommé notamment Alphonse Toumba Luaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et son adjointe Julienne Lusenge, présidente de l'ONG Sofepadi. Retrouvez d'autres nominations sur notre site www.radiocapi.net. Madame, Messieurs, bonjour. Il est impossible pour un détenteur de passeport congolais vivant ou de passage en Chine de retirer de l'argent au guichet des agences de transfert internationaux des fonds comme Western Union ou MoneyGram et même d'ouvrir un compte bancaire au pays de Xi Jinping. Cette préoccupation a été soumise au président de la République par le président des Congolais vivant en Chine. C'était lors de la rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et la communauté congolaise hier à l'ambassade de la RDC à Pékin. Jocelyne Moussa Oponde était présente, voici ce qu'elle nous rapporte.
La RDC est malheureusement classée sur la liste des pays passoires de fonds illicites, d'où la réticence de certaines entreprises de transfert de fonds et de certaines banques. Écoutez le chef de l'État parler de la solution pour remédier à cette situation qui touche plusieurs Congolais dans le monde.
Nous avons aujourd'hui renforcé les capacités de la CNRS qui lutte justement contre ce genre de choses. Nous sommes en train de travailler avec les banques, avec nos pays partenaires, pour améliorer l'image de notre pays.
Le chef de l'État s'est également étendu sur d'autres sujets comme celui sur les mesures incitatives aux initiatives privées afin d'encourager les Congolais de l'étranger et ceux restés au pays à y investir. Il a aussi parlé du développement du pays avec notamment le PDL 145T qui va décourager l'exode rural. La lutte contre les antivaleurs comme la corruption ou le tribalisme a été également évoquée. Notez qu'avant de rencontrer la communauté congolaise de la Chine, le président de la République a, à la demande des autorités chinoises, visité quelques sites symbolique de ce pays qui retrace l'histoire de la Chine, notamment le musée du Parti communiste, le mausolée des Mao Tse-tung ainsi que la cité interdite. Le président Félix Tshisekedi rencontre les officiels chinois ce vendredi à Pékin en Chine. Jocelyne Moussao pour Radio Okapi.
Face aux tensions communautaires entre les Teke et les Yaka qui écument l'espace Grand Bandundu et les alentours de la ville de Kinshasa, le président de la République dit prendre des mesures sécuritaires et politiques pour y remédier. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier à Beijing, en Chine, devant les Congolais de la diaspora. Pour le chef de l'État, ces deux communautés ont toujours vécu ensemble depuis des lustres, d'où il soupçonne le Rwanda d'être derrière ce conflit. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Jocelyne Moussa Oponde, notre envoyée spéciale en Chine.
Ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis que le monde est monde, que le Congo est Congo. S'il y a ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il se passe des choses louches. Et je ne crains pas, moi, de dire que notre horrible voisin là n'est pas étranger à ce qui se passe à Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de mettre les bouchées doubles pour y remédier. Tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. Parce que au niveau politique, il va se former très bientôt une commission parlementaire, d'une part, mais élargie à des membres du gouvernement et d'autres personnalités, qui va se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la question. Et ici, vous savez que c'est une question de terre qui est à la base de ces tensions. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Nous avons combattu un système qui, durant 18 ans, n'a fait qu'avilir, soumettre, tuer les Congolais. Nous n'allons pas laisser ce système perdurer.
Revenons au pays, précisément en Ituri, environ 200 miliciens de la coalition des deux groupes armés des Mai Mai, cantonnés depuis plus d'un mois dans le village de Bandundu, disent attendre avec impatience l'effectivité du programme de désarmement. Leur leader exprime la crainte de voir leurs éléments retourner au maquis pour reprendre les exactions contre la population locale pour leur survie. Le coordonnateur du PDDRCS en Ituri précise que des démarches sont en cours pour acheminer au site de démobilisation de Diango où toutes les conditions d'accueil et de prise en charge sont réunies. Martial Kizabiamungu, reportage.
Ils sont au total 193 combattants appartenant au groupe Mai Mai, mouvement des nationalistes lumumbistes MNL et mouvement Mai Mai congolais MMC qui sont regroupés à Bandundu, tout proche du centre du Biakato. Selon les porte-parole de cette coalition Mai Mai, Willy Nguru, tous ces miliciens ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État et sont prêts à déposer leurs armes pour le retour de la paix à Ituri. Cependant, il indique que ces hommes sont dépourvus de moyens de survie et n'ont pas accès aux soins médicaux. Il appelle le gouvernement à trouver des solutions pour leur prise en charge. Le coordonnateur provincial de PDDRCS les exhorte à la patience. Willy Abibou Maïsi rassure, ces miliciens seront acheminés dans quelques jours au site aménagé de Diango à une dizaine de kilomètres de Bounia pour leur prise en charge.
C'est à Diango où ils seront pris en charge par les programmes. Le message, c'est que d'être patient.
Pour rappel, c'est depuis le 17 avril dernier que les sites de démobilisation de Diango, qui accueillent plus de 150 ex-combattants des milices FPIC et Codeco et Mai Mai venus de Bafouassende, est opérationnel. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, paralysie des activités et perturbation de circulation tout l'avant-midi d'hier aux alentours du siège de la CENI, c'est à la suite de l'organisation d'un sit-in de l'opposition prévu devant la commission électorale. D'après Martin Fayoulou, l'un des organisateurs de cet événement, ce sit-in était prévu pour dénoncer ce qu'il qualifie de hold-up électoral en gestation, eu égard au caractère non fiable du fichier électoral d'après lui. Le sit-in a cependant été empêché par la police. Retour sur ce qui s'est passé l'avant-midi d'hier avec Jacques-Yves Molima qui était sur place.
C'est la patrouille de la police qui sillonne la zone où toutes les voies qui mènent vers le siège de la CENI sont barricardées. Prenant en contre-pied, les agents et fonctionnaires dont les bureaux se trouvent dans ces encablures. Il faut exhiber sa carte de service pour avoir accès, disent des policiers, à ces postes de circonstance, explique cette dame. Pendant ce temps, sur le boulevard devant BCDC, le leader de l'opposition débarque. Il est presque 9h. Martin Fayoulou, Délice Sanga, Auguste Matata Ponyo et Moïse Katumbi, accompagnés par une foule de sympathisants. Ils sont bloqués par un dispositif imposant de la police. Ils ne peuvent pas passer. Une discussion interminable est engagée entre les hauts gradés de la police et les leaders de l'opposition.
Vous allez émettre votre numéro à 10.
En effet, la police attend convaincre les opposants à ne déléguer que 10 d'entre eux. La foule n'est pas d'accord et Délice Sanga martèle.
Nous nous sommes battus dans ce pays pour avoir un ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est l'irrégularité totale. Et ça, c'est inacceptable.
Après plus de 3 heures de confusion, c'est par un coup de force que la police a réussi à repousser un groupe de manifestants dont Katumbi et Matata. Mais Martin Fayoulou prévient.
Nous allons encore revenir jeudi prochain. Tout le jeudi, monsieur, nous serons ici.
C'est finalement vers 12h30 qu'ils ont quitté les lieux et la circulation est redevenue normale.
Et à quelques heures du dépôt par le gouvernement du projet de loi portant répartition de sièges, certains cas d'incompatibilité de nombre d'électeurs enrôlés dans certaines circonscriptions et les chiffres avancés par la centrale électorale sont déjà signalés. C'est le cas de la société civile de Djolou dans la Tchouapa qui dénonce la diminution des 35 000 enrôlés par rapport aux chiffres de l'antenne de la CENI Djolou. Cette diminution a fait perdre au territoire de Djolou un siège à la députation nationale, déplore la communauté de Djolou à qui Kinshasa. Son porte-parole invite donc le gouvernement à corriger cette erreur matérielle avant que le projet de loi ne soit transmis au Parlement. Christophe Essambola est au micro de Michel Kifindangoy.
Contrairement aux données transmises par l'antenne de la CENI Djolou, qui présente 194 339 enrôlés, la centrale électorale a plutôt publié 159 dans la 7 enrôlés, soit une différence de 35 240 enrôlés. Ce qui dénote à suffisance que les données transmises à la centrale électorale par l'antenne de la CENI-John n'ont pas été prises en compte. Cette situation malveillante frise l'injustice alors que le territoire de John avait déjà adhéré à la vision du chef de l'État, Fatih Birton. Au vu de ce qui précède, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec son gouvernement, de corriger cette erreur matérielle en tenant compte des données fournies par l'antenne de la CENI-John pour que son deuxième siège lui soit restitué avant que le projet de loi soit transmis au Parlement.
Lutte contre les messages de haine et la manipulation dans les discours politiques. Ce thème était au centre d'une table ronde organisée à Kinshasa hier à la maison communale de Bumbu, une activité initiée par 5 organisations des jeunes, parmi lesquelles l'Action citoyenne de lutte contre les discours de haine. Elle a bénéficié de l'appui technique et financier du Bureau des affaires civiles de la MONUSCO. Selon les organisateurs, l'objectif visé était de faciliter un échange franc entre les jeunes et les députés élus de la circonscription de la FUNA autour de cette thématique. Jeff Opela, reportage.
Plus de 30 jeunes venus des 7 communes du district de la FUNA ont participé à ces rendez-vous. Un jeu de questions-réponses a caractérisé cette table ronde entre députés et jeunes autour des messages des haines et de la manipulation dans les discours politiques. Une manière d'exercer ses devoirs de redevabilité de leurs élus. Cette table ronde a fait suite à une série d'activités de coaching et de sensibilisation sur la cohésion sociale. Maître Gloire Manessa, porte-parole de l'Action citoyenne de lutte contre les discours des haines, explique.
Les jeunes ont estimé qu'ils étaient importants que à travers ces ASBL et l'appui de la MONUSCO, qu'on les rassemble autour des honorables députés afin qu'une sensibilisation soit faite pour voir comment nous pouvons renforcer la résilience des populations face aux messages de haine.
Les députés présents à cette séance ont reconnu le recours à cette pratique par certains d'entre eux. Ils invitent donc le jeune à ne pas se laisser manipuler. Une participante n'a pas caché son satisfecit d'avoir pris part à ces rendez-vous.
Vraiment, je suis très heureuse. C'est vraiment très captivant pour nous les jeunes d'avoir ces telles assises parce que ça nous permet non seulement de dialoguer et de prendre des dispositions par rapport aux problèmes qui accablent notre communauté, mais aussi envisager des mécanismes pour remédier à tous ces problèmes. La MONUSCO est là, il nous soutient, il nous appuie. C'est vraiment quelque chose à encourager.
Pour sa part, Julia Wicknam, coordonnatrice des affaires civiles de la MONUSCO Kinshasa, a promis de continuer de soutenir ce genre d'activité.
Et puis, fin de notre série de reportages sur le Haut-Touélé, doté de plusieurs richesses qui peuvent faire d'elle l'une des provinces les plus développées du pays. Hier, nous vous avons fait découvrir le parc de la Garamba et sa riche biodiversité, mais le parc mène beaucoup de projets de développement dans les territoires de Faradje et Dungu. L'un des projets innovants a été l'électrification du territoire de Faradje pour la première fois en 2021. Cela après qu'une centrale a été construite par Nourou sur initiative du parc de la Garamba, avec notamment un financement de l'Union européenne. Des ménages ont bénéficié de l'électricité gratuite pendant un an. Après cet essai, un système de prépaiement Cash Power a été installé. Reportage de Cynthia Bachizi Nabizana.
Avant 2021, à la nuit tombée, Faradje était plongé dans le noir. Cette centrale solaire a donc changé la vie des habitants. Elle a une capacité de 215 kW et aujourd'hui, seuls 30% de l'électricité est vendue. Tout fonctionne avec cette électricité qui est comparable à celle produite par une centrale hydroélectrique. Cela a révolutionné l'économie locale, tel que nous le témoigne Xavier Ntereka, agent de Nourou.
Nous avons une tension de 240 volts. On a des ateliers de soudure qui sont connectés sur notre réseau. Il y a même les sociétés de télécommunications telles que Vodacom qui consomment notre électricité. Il y a des stations-service. On a aussi des poissonneries.
La centrale solaire a été construite par Nourou qui la gère aujourd'hui également. Deux tarifs sont appliqués. 0,38 $ américains par kilowattheure de 6h du matin à 18h du soir et 0,49 $ américains par kilowattheure de 18h à 6h du matin. Sur place, des clients, surtout des opérateurs économiques, plaident pour une tarification selon les types d'abonnés. Notez également que le même projet a été initié par le parc de la Garamba pour électrifier, pour la première fois de son histoire, le territoire de Dungu. De retour de Faradje dans la province du Haut-Touélé, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
L'un des suspects les plus recherchés dans le génocide rwandais, un officier de police soupçonné d'avoir orchestré le massacre de plus de 2000 personnes dans une église il y a près de 30 ans, a été arrêté en Afrique du Sud. Cela, après 22 ans de cavale, a annoncé jeudi un tribunal spécial mis en place par les Nations Unies pour retrouver les auteurs du génocide. Fulgence Kayishema, qui serait âgée d'une soixantaine d'années, avait pris une fausse identité, a indiqué la police sud-africaine. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de l'avoir suivi.